Aujourd'hui, nous allons donc traiter toujours du même sujet qui est le sujet principal du judaïsme, c'est-à-dire la rédemption, la Géoula. Et nous allons en fait traiter de l'apparition du tétragramme qui va être la préparation de la sortie d'Égypte. Nous avons déjà expliqué que le livre de Shemot porte bien son nom puisqu'il s'agit des noms et que la qualité des noms est le dévoilement. Mais nous allons voir quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas seulement de dévoilement, on va essayer de comprendre que les noms ont un rôle et qu'ils jouent quelque chose de plus que de désigner des objets ou des êtres. Alors, la paracha que nous avons lue commence par Vaïdaber Elohim El Moshe Vayomer Elav Ani Adonai. J'ai le droit de dire les noms puisque je lis un verset entier. Va'era El Avraham El Yitzhak Ve'El Yaakov Ve'El Shaddai Ushmi Adonai Lo Noda'ati Lahem. Je traduis, il y a ici un dibour. Un dibour est un langage difficile, car le mot d'aber, vous entendez que c'est assez violent. D'aber. C'est beaucoup plus violent que amar, qui est la racine du mot amour. C'est-à-dire que amar, c'est sensible, et d'aber, la lettre la plus lettre, entre guillemets, c'est le bet. Qu'elle sort par un combat, et on sent le combat avec les deux lèvres. Alors que A, c'est très souple, le Aleph, le même, le Ref, Amar. Donc, Vaïdaber Elohim, il y a ici un langage assez violent d'un nom qui est relatif à l'attribut de rigueur, le nom de Elohim, qui est en valeur numérique 86. Le même degré que la nature. C'est-à-dire, Dieu de la nature, en fait, parle à Moshe d'une manière assez rude. Vayomer Elav, regardez, Vaïdaber, Vayomer. Il a commencé par Vaïdaber, et le nom correspondant à Vaïdaber, c'est Elohim, donc deux fois rigueur, et d'un coup, on passe à deux fois tendresse. Vayomer Elav, il lui dit Ani Yutke Vavke. Et maintenant, il s'adresse à lui avec un autre nom, le tétragramme. C'est comme si Dieu Elohim dit à Moshe, je suis aussi Dieu Yutke Vavke. C'est quoi toute cette façon de parler? Pourquoi lui dire tout ça? Deuxième degré. Va'era el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai. Encore des noms. Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec un autre nom, un troisième nom, qui s'appelle El Shaddai. Aussi, et mon nom, celui que je viens de te dire maintenant, le tétragramme, Yutke Vavke, Lo Noda'ati Lahem. Je ne l'aurais pas dévoilé. Il le savait, ce nom. Je ne me suis pas fait connexion, pas connaître, connecté avec ce nom. C'est-à-dire, on peut connaître le nom, mais pas être connecté à lui. D'accord? Ça veut dire que Dieu ne s'était pas dévoilé dans le monde réellement, appliqué avec ce nom, alors qu'on le connaissait. Donc, vous voyez qu'il y a ici, dans ces deux versets, un ensemble de noms, et on dirait qu'il y a un jeu. Un nom dit je suis un autre nom. Et je ne me suis pas dévoilé dans cet autre nom à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Car je me suis dévoilé avec un troisième nom. C'est quoi toute cette histoire? Alors en français, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, dans la traduction française, regardez ce que ça donne. Rien du tout. Et Dieu parla à Moshe en lui disant je suis Dieu. Ça ne veut rien dire. Je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov par mon nom El Shaddai, mais mon nom Yudkevaté, je ne me suis pas dévoilé. Quelqu'un qui lit à ce degré-là ne comprend pas. Alors nous on va essayer, de comprendre de quoi Akadosh Baruch Hu veut parler à Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit à travers tout cet ensemble de codes. Ramchal, donc, j'ai fait chercher chez le Ramchal, dans Klar Pitre Chochma, un des livres clés du Ramchal, qu'on appelle les 138 portes ouvertures de la sagesse. Dans le chapitre 23, le Ramchal nous dit, Sod Hasemot, le secret des noms, Uma Sebaim Haorot le Prima Seoula. Mais c'est précis. Pas plus, hein. J'ai arrêté là où il s'est arrêté. Ça veut dire qu'il dit quelque chose de très court qui explique tout. Qu'est-ce qu'il dit? Le secret des noms, c'est en réalité quand les lumières supérieures arrivent à une action. Donc c'est une activation de la lumière supérieure. Tant que la lumière supérieure n'est pas nommée, qu'on ne donne pas de nom, eh bien, elle n'agit pas encore. Quand est-ce que la lumière supérieure commence son action sur Terre? Lorsqu'on donne un nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il crée, si moi, l'homme, je ne suis pas capable de donner un nom et de définir quelque chose, bien, cette chose créée par Akadosh Baruch Hu est encore en potentiel, elle flotte, mais elle n'existe pas réellement parce qu'elle ne fait rien. Quelle est la nouveauté par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Nous, on a l'impression que les noms, ce sont des définitions. Je définis ce verbe, je définis cet objet, je définis cet être, je définis cet animal. Mais là, c'est plus que définir. Au moment où je définis l'animal ou l'être, il commence à évoluer, à bouger, à se mettre en mouvement. Ça, c'est un chidouche extraordinaire de la Kabbalah. Ça veut dire que l'activation des choses, j'appuie sur un bouton au moment où je donne le nom de quelque chose. C'est pas seulement une définition d'un objet qui est extérieur à moi. En donnant le nom, je fais bouger quelque chose dans cet être. Et ça, c'est une nouveauté. Alors, on va voir. Comme nommer un enfant. Adam Harisson, qu'est-ce qu'il a fait? Avec les animaux. Vaikra lahem semot. Quel hommage. Donc ça veut dire, d'après ce que vient de dire le Ramchal, c'est Hashemot Einam Rak Hagdarot. Les noms ne sont donc pas seulement des définitions. Et la Shemot Eshem Kriyatam, mais au moment où je dis le mot, où j'appelle, d'ailleurs le mot en hébreu, c'est comme en français, appeler. Appeler, c'est-à-dire faire venir. Donc micro en hébreu veut dire et faire venir, et en même temps lire, à micoré. Donc quand je lis quelque chose, je fais venir. Je rentre en action la chose en question. Mikrolel sinui mahouti be'esem hanikra. Donc banikra, hanikra, il y a une faute que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, dans celui qui vient d'être appelé, il y a une mise en mouvement. L'être appelé est un être qui bouge. Et je répète ce que je dis très souvent, ce n'est pas la même chose de dire à quelqu'un « Bonjour Aurélia » que « Bonjour, comment tu vas ?» C'est pas pareil. Au moment où je donne le nom, il y a quelque chose chez Aurélia qui va se mettre en mouvement. Quelque chose va bouger en elle. « Zéou nishnas le seoulato » Et à ce moment-là, la chose en question, ou l'objet, ou l'être, ou l'animal, peu importe, ce que je suis en train de nommer, ce que je suis en train d'appeler, ce que je suis en train de faire sortir, je donne un relief à la chose, eh bien, il rentre en action. Comme si j'appuyais sur un bouton, et qu'est-ce que je touche en réalité? L'essence profonde de la chose en question. Le pourquoi. D'ailleurs, rappelez-vous en hébreu, l'âme, c'est le sem, ma. Au nom de quoi? C'est un diminutif, l'âme. Quand je dis pourquoi, je dis au nom de quoi, et j'utilise le mot nom. C'est-à-dire qu'il y a ici le nom d'un élément qui va se mettre en action. Et ça, c'est le fondement. Donc lorsque j'appelle quelqu'un, que je nomme quelqu'un, je nomme en réalité le point de lumière qui est le fondement de la chose, qui est comme la neshama de cette chose-là qui va commencer à le mettre en mouvement. C'est très important. Donc quand on vous appelle, quand on vous nomme par votre nom, c'est très important. Pour détruire un homme, qu'est-ce qu'on fait? On lui enlève le nom et on lui donne un chiffre à la place. C'est ce qu'on nous a fait dans la Shoah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour faire la correction, on a dit Yad Vashem. Yad Vashem, c'est pas juste un nom comme ça qui fait que c'est sympathique. C'est tout simplement pour faire un tikkun au fait de nous avoir transformé les noms en chiffres. C'est vrai que les chiffres existent, mais les chiffres, c'est un degré beaucoup plus bas que les noms. C'est pour ça qu'on nomme en hébreu, la Torah dit « Bemispar Shemos ». On donne un chiffre, combien j'ai compté, mais en même temps, je donne des noms à ces chiffres. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des chiffres et des lettres. C'est nous qui avons inventé les chiffres et les lettres. D'accord ? Maintenant, c'est très important de comprendre que quand la Torah dit « Smotat et la Kadosh Baruch Hu », toute la Torah, entièrement, du début jusqu'à la fin, c'est en réalité des noms. Des récits, c'est un nom. C'est-à-dire, j'ai défini quelque chose par des lettres. Bara, j'ai défini autre chose par des lettres. Ça peut être un verbe, ça peut être un nom, ça peut être quelque chose, peu importe. Et j'ai plusieurs lettres pour définir certaines choses. Donc c'est infini. Toute la Torah, c'est un ensemble de noms, donc de désignations, donc de mise en mouvement. Moralité, lorsque la Torah, elle descend chez nous, et que je la lis, qu'est-ce qui se passe? Je mets en mouvement tous les éléments qui sont codés. Par exemple, quand vous lisez à la Torah au Beit HaKnesset, alors il y a un lecteur de la Torah. Mais vous, à votre place, vous êtes à 20 mètres du lecteur, qu'est-ce que vous devez faire? Lire en même temps, mais à voix basse. Mais dire les choses, pas seulement voir avec les yeux. Attention, c'est pas pareil. Lui lit pour moi, donc je suis tranquille. Non, je dois lire les lettres, lui à haute voix et moi à voix basse. Et même quand je monte à la Torah, je dois lire en même temps que lui sans gâcher sa lecture. C'est-à-dire, il ne faut pas que je le gêne, mais je dois lire. Je dois couper les mots avec mes lèvres et ma langue et tout ce que j'ai. Sans le son. C'est-à-dire, je dois faire comme ça. En même temps que lui, il y a le son, mais il n'y a que moi qui peux l'entendre. Mais je dois l'entendre à lui en même temps. C'est très important. Pourquoi? Sinon, le texte est muet. Il est comme un oiseau qui n'a pas ouvert ses ailes. C'est seulement quand je lui donne le verbe et à haute voix que je le fais activer. Même si j'étudie la Torah seul, et ça m'arrive, il faut l'étudier à haute voix. Justement pour ça. Pour ne pas que ce soit seulement au niveau de la vision lointaine, qu'on appelle en hébreu les haïen. Les haïen veut dire voir avec les yeux sans dire. D'accord? Haïn. Alors que les malmen veut dire parler, mila. D'accord? Qu'est-ce que c'est la mila? C'est coupé. Comme la brique mila. Donc, quand je dis des mili, au singulier mila, je découpe les mots. Si je ne découpe pas les mots, je ne dis pas de mila. Donc en réalité, nous sommes tous des mots à l'île. On fait des circoncisions à chaque fois qu'on parle. À chaque fois que je parle, je découpe des mots. Donc je coupe des degrés. Et si je ne sais pas découper les mots au véritable endroit, il y a un problème. Je suis dans un mauvais sens du texte. Dans un non-sens même. Si je ne sais pas mettre les points là où il faut. Et si je ne sais pas mettre le poids des mots. Tout à l'heure, j'étais en ville et j'entendais, vous imaginez que c'était une Française avec l'accent, parler en hébreu. Je me suis dit, arrête de scène. Hein? Alors, on a compris. Mais en réalité, elle n'a pas dit vendredi la pluie. Parce que pour dire vendredi la pluie, elle aurait dû dire Yom Sissi Yarad Geshem, et pas Geshem. C'est ce problème. Ça veut dire que même là où vous mettez le poids dans le mot, c'est important. On ne dit pas Geshem, on dit Geshem. Alors, il est important de savoir donner les mesures aux choses. Alors, Kloma, c'est Beyesod Aïnyan, ça veut dire que le fondement de ce que je veux essayer de vous faire passer ici, Munachata Havana, il y a une explication, un sens profond. C'est Shemot Hashem, que tous les noms d'Hashem, car toute la Torah, ce sont des noms d'Hashem. Donc, tous les noms de la Shem, toute la Torah entière, du début jusqu'à la fin, c'est la source même, la racine même de toute l'existence. Les noms. Et comme ce sont des noms différents les uns des autres, mon fiot peulotav babria, eh bien, ce sont en réalité toutes les actions du même et seul infini, béni soit-il, dans la création. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que même si je suis en train de désigner une maison, bien, la maison, ce n'est pas une maison. Ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'à partir du moment où je dis maison, elle commence à bouger. Donc quand je dis tout ça, je fais bouger en fait l'infini. Et c'est tout en réalité des vêtements pour l'infini. Car avec quoi je peux définir entre guillemets ce qui n'est pas définissable? La Torah est descendue à mon niveau. Donc Dieu a fait une contraction, il s'est vêtu des vêtements pour que moi je puisse utiliser un verbe quelconque. Donc à chaque fois que Dieu m'apparaît dans un mot, c'est toujours Dieu, mais à un autre degré. Donc Dieu peut me paraître dans un tissé, une chaise. C'est toujours la fille. Maintenant habillé dans un niveau que je suis en train de voir comme une chaise. Et je peux dire après, David, c'est toujours le même infini qui maintenant, au lieu de se dévoiler dans la chaise, il se dévoile chez David. Vous comprenez? Il y a un seul infini, c'est le seul être qui existe réellement. Tout le reste, ce ne sont que des vêtements qui réalisent ce seul. El od mi levado. Il n'y a plus rien d'autre que lui. Donc qu'est-ce que vous êtes vous en réalité? Des noms qui se sont mis en action et qui révèlent plus ou moins le seul infini. Comme les lettres. Comme les lettres. Et c'est pour ça qu'en réalité, nous sommes aussi un ensemble de lettres. Et tout ce qu'on fait entre nous, ça ne passe que par des lettres. Puisque je rêve lettres. Je parle lettres. Je pense lettres. Tout ce que je fais, ce sont que des combinaisons de lettres. On est d'accord? Même quand vous me dites comme ça, sans parler, vous êtes en train de me dire Ken Kafnoun. Vous comprenez, c'est énorme ce qu'on est en train de dire là. Pardon? Ben, tout simplement, c'est avec ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Baruch, c'est Amaaz, Vehaya, Haolam. On le dit tous les matins, Baruch, c'est Amaaz. Qu'est-ce que ça veut dire, Amaaz? Eh bien, le mot Amaaz, c'est Aleph, Mem, Eref. D'accord? Les kabbalistes nous disent que dans le mot Amar, il y a en fait la dégradation de chaque chose. Car il faut une dégradation. Pour pouvoir définir quelque chose, il faut que la chose se dégrade. Car si elle reste à son niveau sublime, d'en haut, supérieur, je ne peux pas la définir. Elle est trop loin pour moi. Donc, en réalité, le sublime, c'est Aleph. Or, le Aleph, on ne peut pas l'exprimer. Vous savez qu'en hébreu, on ne peut pas dire la lettre Aleph. Elle est muette. C'est comme ça. Il n'y a rien à dire. Mais une fois que tu n'as rien dit en réalité, tu as commencé par un silence qui est l'infini, eh bien, ça doit descendre vers la matrice. M comme maman. Et vous voyez qu'elle a les deux jambes dans lesquelles, par lesquelles le bébé va sortir. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de l'infini qui commence à rentrer dans une matrice et qui va se rétima en hébreu, l'urkom veut dire tisser. Ça va devenir un tissu de choses. Donc le ré est un tissage. Moralité, j'ai de la lumière au départ qui doit passer par un liquide mind et qui doit arriver à Rakia. C'est comme ça que je façonne quelque chose. Or, Maïm Rafia, initial Amar. Baruch, c'est Amar, Veraya Olam. Baruch Omer, Veofer. Donc, par ce Omer, il y a tout. Et chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu dit Vayomer, eh bien, il passe par ces trois étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape de la pensée, on l'appelle ici lumière, parce que c'est la chose la plus spirituelle qu'on puisse toucher dans notre monde. On ne sait pas ce que c'est. Après, ça passe par un liquide, c'est comme une goutte de sémence. Et après, il y a le bébé qui se forme, rapide. D'ailleurs, le mot lirkoa, en hébreu, veut dire tisser. Donc un tissu, comme un tissu sanguin. L'ADN. Lirkoa, comme ça. Lirkoa. Rokea, ça arrête à la main. D'ailleurs, il y a un ciel qui s'appelle Rakia. D'accord ? Ça veut rien dire en français ces mots-là. Ça veut dire tout simplement ce qui est capable de faire le lien entre le haut et le bas. Nakhon, c'est aussi une broderie. Et Rekia, c'est en fait encore un autre chose. Avant la Rekima, il y a la Rekia. C'est-à-dire la possibilité de mettre ensemble plusieurs degrés. Maintenant, Ha'evdel ben Asemot, donc la différence entre les noms, entre les différents noms que vous voyez dans la Torah, Kovea et Tadiloui Matoni. C'est ce qui va en réalité mettre en place les différents degrés de dévoilement. Si je dis M, eh bien, j'ai déjà mis en place une fonction de matrice, de maman. Si je dis Av, c'est presque les mêmes noms. J'ai dit quelque chose d'autre. C'est paternel. C'est papa. Vous voyez que avec une lettre, je change complètement de monde. Maintenant, quel est le chiffre de 1 à 10 qui permet de dévoiler les choses? Non, monnaie, c'est au-delà. C'est le 7. D'accord? Donc le 7, c'est le chiffre du dévoilement. Seva, rappelez-vous, c'est comme Seva. En hébreu, les lettres aussi, on peut les intervertir entre elles, certaines d'entre elles. Donc le signe de Seva, vous pouvez le changer en tête de Teva. Les autres restent les mêmes. Ça veut dire que le fait, c'est aussi la nature. Pardon ? Mais c'est une règle hébraïque. C'est pas que je suis en train de jouer comme ça m'avance. Il y a en hébreu des lettres qui peuvent bouger entre elles. Extraordinaire. Ça aussi, c'est encore une Torah. Il faut l'étudier. Otiot, mitralfot, on les appelle. Maintenant, pourquoi c'est important ? Parce que le mot Shem, il doit en réalité, puisqu'il est révélateur, puisqu'il est démonstratif, puisqu'il est dévoilement, il doit être automatiquement associé au chiffre 7. Donc, quelle est la valeur numérique du mot Shem ? 340. 340, 3 plus 4, 7. C'est-à-dire le mot Shem, c'est en réalité le dévoilement. D'accord ? Maintenant, je dis que le dévoilement n'est pas seulement une mise en définition. Je dis que ça fait bouger. D'accord ? Comment on dit bouger en hébreu ? Et vous inversez les deux lettres. Mas. Mas, c'est bouger en hébreu. Lo yamus, il ne bougera pas. Lo yamus, sefer haTorah hazemitifa. Donc mas, c'est bouger. Sem, c'est définir et faire bouger en même temps. D'accord ? Maintenant, vous comprenez pourquoi celui qui va dévoiler Dieu dans ce monde s'appelle Moshe. Parce qu'il est obligé de faire bouger et il est obligé d'être Hachem. Maintenant, quelle est la différence donc entre Ama et Sem ? Eh bien, Sem, regardez, la lettre Sin, elle est avant la lettre même ou après ? Elle est après. Donc en réalité, on va vers de la fin de l'alphabet et on remonte vers le Aleph. Alors que Amar, on est au début de l'alphabet, on est au milieu de l'alphabet et on est à la fin. Donc le Amar, c'est du haut vers le bas, du Aleph vers le Taf, alors que le Sem, c'est du bas vers le haut, puisqu'en réalité on a dit que c'était la fonction du Kli. Toujours du bas vers le haut. Même si je remplis du haut vers le bas, comment est-ce que le liquide se remplit ? Du bas vers le haut. Parce que j'ai donné un fond, j'ai donné un écran. Donc toujours, Ha, Sem, c'est ce qui descend du haut vers le bas, et Mo, c'est c'est celui qui va révéler Hashem du bas vers le haut. D'accord ? Maintenant, Chazal Omri, le sage nous dit, dans le traité des pères, Pirkei Avot, au chapitre 5, Mishnah Aleph. De Asara Ma'amarot Nivra Olam. Rappelez-vous, le monde fut créé par 10 Ma'amarot. Donc, Dieu a dit, Vayomer, 10 fois. Moralité, il était seul, entre guillemets, donc c'est du haut vers le bas, du Aleph vers le Taf. Donc c'est lui qui vient vers ce monde. Il n'y a personne encore pour l'entendre, il n'y a personne encore pour le contredire, il n'y a personne encore à qui il demande quoi que ce soit. Il sait. Il se dit. Quand je dis Ani Omer, à qui je parle ? À moi-même. Mais par contre, Ani me daber elai, j'ai déjà un interlocuteur. Donc Dieu au départ dit Omer, parce qu'il est seul. Donc, de Asara Ma'amarot, on est obligé d'utiliser le verbe Amar, Nivra Olam, pour la création du monde. Vous êtes d'accord ? Ok. Aseret Ma'amarot Matbilin, le Aseret Motav, c'est la Kadosh Baruch Hu. Vous savez que Hashem nous a donné, nous a offert 10 noms différents. De lui-même, c'est un agent secret. Ça dépend comment il se réalise, quel vêtement il porte aujourd'hui. Eh bien, par rapport aux vêtements qu'il porte aujourd'hui, je peux savoir ce qu'il est devenu faire. S'il s'habille de vêtements blancs, je peux savoir qu'il est dans la miséricorde aujourd'hui. Alors maintenant, il va falloir étudier ses noms. Celui qui ne sait pas les noms d'Hashem, eh bien, il ne peut pas s'élever dans la Torah. D'ailleurs, il y a marqué « Asad Geveru Kiyada Shmi Ukraen Ge'aneu » Qui je réponds, qui je fais monter, celui qui connaît mes noms. Donc l'étude de la Torah, c'est l'étude des noms d'Hashem. Si vous ne savez pas les noms et la différence des noms, c'est comme si vous tapez dans une porte pour demander, je ne sais pas moi, de la santé, alors que vous êtes à côté. C'est pas le nom qui est responsable de la santé. Donc il y a plusieurs noms qui chacun est responsable de quelque chose de bien précis. Et si vous savez le nom, vous savez en réalité faire la cabana de ce nom précis qui ouvre telle porte.
Je crois que du nom, puisqu'on a vu toute la Torah, c'est le nom.
Oui, ça c'est le nom de tous ces dévoilements. Mais lui-même s'est approprié 10 degrés de dévoilement, c'est-à-dire une entité. 10, c'est la totale. 70, c'est encore autre chose. Ce sont des dérivés. Maintenant, on va essayer de comprendre. On ne va pas étudier les 10 noms. Mais on va prendre déjà 3 d'entre eux. Mais quand les Khadna Hashemot, Moréal Signon, Peoula, Miouchad, la Messie, donc chaque nom d'Hashem montre en réalité une action différente dans la réalité. Echad Levate et Hadin Baola, un par exemple de ces noms représente la rigueur, c'est-à-dire la mise en limite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, Shem Elohim, ou bien Shem Adi, Adon. Dans le mot, il y a Din. Et Elohim, la nature, il y a Chok. C'est-à-dire la nature, c'est quoi ? C'est des lois, c'est qui obéissent à des règles de la nature. Je ne peux pas faire autrement. Je fais bouillir de l'eau à un tel degré, ça boue. Ça, c'est des lois de la nature. Donc ça, c'est le Shem Elohim. Ve'asemi et midata rachamim, etc., etc., etc. Qu'est-ce que c'est midata rachamim ? Oui, mais à part le tétragramme, qu'est-ce que ça veut dire midata rachamim ? La miséricorde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le temps. Le temps. Le temps. C'est-à-dire, Midat Hadin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne donne pas le temps. Midat Hadin, c'est, ça fait un truc, paf, tu reçois une vie. Puisque c'est la loi naturelle. Quelqu'un saute par le 10e étage, Chas de Shalom, c'est fini. Alors que, Midat Arachamim, Rachamim c'est au pluriel ou au singulier? Pluriel. Donc quel est le singulier de Rachamim? Rachamim qui veut dire la matrice. Qu'est-ce qu'on fait en réalité lorsqu'il y a une grossesse? On donne du temps au bébé de passer d'un autre monde à ce monde. Donc ça s'appelle Rachamim. Donc en réalité, la mère, elle donne du temps au bébé pour que sa neshama s'habitue à ce monde. Sinon, c'est un traumatisme. Déjà, comme ça, il est traumatisé, même parce que le passage d'un monde à un autre, c'est très difficile, c'est très compliqué. Il faut en réalité passer par 9 étapes. Pourquoi ? Parce que 10, c'est la totalité. Donc je passe d'un monde à un autre, je dois, à partir de là, point, faire 9 degrés, et après je suis déjà dans un étage d'en dessous. Donc les 9 mois de grossesse sont en réalité un passage complet entre un degré et un autre. Moshe, lui, sa mère, elle était enceinte que 6 mois. Ça veut dire qu'en réalité, quand il est arrivé dans ce monde, qu'est-ce qu'il avait ? Il était encore dans l'autre monde. Il n'était pas encore fabriqué de ce monde. Donc la saleté, entre guillemets, le camouflage de ce monde n'était pas encore sur lui. Donc quand on a ouvert, qu'est-ce qu'on a vu ? À Teva. Trois Teva, c'est quoi Teva ? Non, c'est pas dans la Teva, c'est dans la Teva. D'accord ? D'accord ? Et c'est avec un sable. D'accord ? C'est pas avec un test. Ça c'est Teva, et là c'est Teva. Aucun rapport. D'accord ? Maintenant, va faire auto qui tove vous. Il y a marqué à la vie qu'il était tove. Comment tu peux être tove en étant dans ce monde ? Ça veut dire que tu as gardé en fait la mémoire de là où tu viens. Donc Moshe en réalité, il a gardé la mémoire, c'est pour ça qu'il s'appelle le nom. Moshe, Hashem. C'est-à-dire qu'il a gardé la mémoire de quoi ? De la force de définir les choses, de comprendre les choses auxquelles il fait face dans sa vie. Donc plus tu es fort dans le nom, plus tu peux comprendre ce qui se passe dans l'au-delà. Qui était le spécialiste des noms ? Yosef. Yosef connaissait le langage hébraïque à merveille. C'est le top niveau. Donc qu'est-ce qu'il était capable de faire ? De traduire les rêves, de donner une explication, une interprétation au rêve, parce qu'il savait exactement le secret des noms. Et d'ailleurs, les sages nous disent, quiconque ne sait pas le secret des noms ne peut pas interpréter des rêves. Parce que tout est codé dans ce que la personne va te dire. Qu'est-ce Nahon. Nahon. Tout à fait. Pourquoi Moshe bégayait ? Pas du tout. Le Midrash dit qu'il a goûté des braises au lieu du fruit. Mais je ne parle pas de ça, moi. Mais non, mais non, mais non, mais non. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est pas ça. Mais pas du tout. Tout simplement parce qu'au moment où on est en exil, le peuple d'Israël est malade. Il ne peut pas dire, il est dans la maladie. Donc, s'il est maladie, s'il a un problème de diction, c'est parce que le monde juif de cette époque est malade. Quand on est en exil, le verbe est étouffé. Donc Moshe, qui est équivalent à toute la nation, il vit tellement au niveau de la nation qu'il souffre pour elle. C'est pas qu'il avait un problème lui-même qui bégayait tout seul. Dieu, je souffre parce que mon peuple souffre. Voilà. C'est ça le secret de Moshe Rabbeinu. Sinon tu ne peux pas être Goël. Tu ne peux pas être le Mashiach. Un Mashiach, c'est pas un type qui vient, sympathique, qui ne ressent pas la souffrance de sa nation. C'est impossible. La première condition pour être Mashiach, c'est de souffrir la souffrance de son peuple, pour pouvoir la rédempter. C'est vu ? Donc, à Midrash, des fois j'ai un monde de nom, c'est pas grave. C'est la tête dans lui, mais... À Midrash, c'est Mot Rabba. Maintenant, regardez ce que le Midrash nous dit dans ce Mot Rabba. Il nous explique. Amar le Akadosh Baruchou le Moshe. Il nous raconte une conversation entre Akadosh Baruchou et Moshe. Une prophétie donc. Dieu dit à Moshe, si Atame Bakesh Leïda, tu veux savoir mon nom, le Sima Asai Animitra, eh bien je vais te donner un chidouche. Je n'ai pas de nom, je m'appelle selon mes actions. Autrement dit, à un moment donné, je m'appelle le Créateur, donc Boré. Un autre moment, je m'appelle Lochem, parce que je fais la guerre. Et ainsi de suite. Selon mes actions, mon nom change. Péami, Anigra, El Shaddai. Des fois, tu vas voir que je vais apparaître dans ce monde avec le nom El Shaddai. Après, Sebaot, je vais m'appeler le Dieu des armées. Parce que c'est la guerre. Après, Elohim. Après, Yisrevaké. Tu as mis Dan et Tabberiot. Dieu continue à parler. Il dit à Moshe, quand je suis dans un jugement, je juge mes créations, mes créatures. Ami Israël Elohim, eh bien je suis dans Elohim. D'ailleurs, comment ça s'appelle un tribunal? Elohim. Ben oui, Vehigisho El Ha Elohim. Elohim, c'est un bétine, c'est Dom. Dom, on appelle Elohim. Pourquoi? Parce que c'est un jugement. Je suis allé en Semilchama Baresaïm, et quand je sors en guerre contre les mauvais, contre les méchants, Ani Nikra Tsevaot. Qu'est-ce que c'est Tsevaot? Qu'est-ce que c'est Tsava? C'est sortir et revenir. Donc c'est Tseva. Donc le mot Tsava, c'est pas l'armée, c'est la tête de la voix. C'est sortir et revenir. C'est ça la force de l'armée. Et quand je regarde précisément en gros plan les fautes, les ratages d'un homme, Anikra El Sadai, je m'appelle El Sadai. Je suis Anim Erachem Al Olami, et quand je donne du temps, quand je suis miséricordieux avec mon monde, Anikra Yuskevate, je m'appelle Yuskevate. Le film Asai, Anikra. Et il termine la conversation avec Moshe en disant, retiens cette leçon, et maintenant je vous la fais passer, retenez cette leçon. Dieu est appelé selon ses actions. D'accord? Non, Midrash. J'ai marqué ce mot rabat par un tas d'humains. D'accord? Alors ici on a quatre. Il n'a pas voulu développer. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas pour l'instant développer le reste. Parce que ce qui nous concerne, c'est la première ligne. C'est déjà pas mal. Décrilat parasatel. Donc maintenant je reviens à cette première ligne. Et c'est comme ça que la paracha a commencé. Mon film, Shlosha, Shemot. Il y a trois noms qui apparaissent. Elohim, Yudke Baske et El Sadai. On est d'accord? Ok. Donc ça veut dire qu'il y a ici trois actions. Trois vêtements. Trois dévoilements. Du même infini, toujours le même. Dans trois degrés différents. Bafasuk Apoter. Donc le verset qui ouvre la paracha. Yeslat Gouva Elohim l'état anato sel Moshe. Quand est-ce que Dieu dit ce qu'il dit? Ben, il faut prendre ce qui a été dit à la fin de la paracha de la semaine d'avant. D'accord? Qu'est-ce que dit Moshe? Umeaz bati el paro hera la'am hazé. Depuis que je suis venu chez Paro, comme tu me l'as indiqué, tu m'as dit va chez Paro. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu encore pire pour le peuple. Donc, Moshe, qu'est-ce qu'il est en train de faire à Kadosh Baruch Hu? Il est en train de lui reprocher que la Géoula n'avance pas assez vite. Je croyais que j'étais le Mashiach. Normalement, lorsque le Mashiach vient, ça devrait s'arranger. Là, on voit un exemple que même quand le Mashiach est là, eh bien, l'histoire n'est pas encore arrangée. Je ne suis pas en train de vous démoraliser, hein. Mais en réalité, c'est comme ça. Ça veut dire, même lorsque le Mashiach va apparaître, ne croyez pas que c'est fini. Il va falloir des guerres. Le Mashiach vient faire des guerres, c'est un roi. Il a marqué des milcham, milchamot Israël, il doit faire des guerres. Mais voilà. D'ailleurs, les halachot des melachim, du Rambam, ça s'appelle milchot melachim ou milchamotehem. Le chapitre des rois et de leur guerre. Il n'y a pas de roi sans guerre. Et il n'y a pas de Mashiach qui se dévoile sans qu'il y ait des contradictions. Aujourd'hui, l'Union Européenne est en train de payer des tonnes d'argent pour séparer Jérusalem de Malabou. Pour faire une ceinture. Alors, il va falloir des guerres pour ça. Vaïdaber Elohim El Moshe Vaïomer Ela Vaniyasem. Alors maintenant, la réplique de Dieu à ce reproche, c'est quoi? Vaïdaber Elohim, je vous ai dit tout à l'heure que c'était difficile. Pourquoi? C'est comme si Dieu est en train de me faire un reproche. Je vais te répondre durement. C'est-à-dire que je suis en train de te juger, mon fils. Attention à comment tu me parles. Donc Vaïdaber Dieu, Elohim dur. Et le Moshe va nommer là, et qu'est-ce qu'il dit? D'un coup, un lien, c'est cool. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Il y a un grand secret. Ce qui se voit dans la nature comme quelque chose de très dur, est en réalité dans un monde caché christique. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est vrai que extérieurement, la chose est devenue insupportable. Mais dedans, qu'est-ce qu'il y a? Un Hashem, Yuskevaske, il y a le tétragramme. C'est exactement l'inverse de ce qu'on dit en français. En français, on dit une main de fer dans un gant de velours, c'est ça? Eh bien, c'est l'inverse. C'est un gant de fer avec une main dedans qui est de velours. Exactement l'inverse. Ça veut dire que Dieu, quand il apparaît, même dans la Géoula d'aujourd'hui, ça va passer par des événements qui sont terribles. Et on les voit. Qu'est-ce qui se passe? On le vit. Mais à l'intérieur du processus, tout circule, la miséricorde divine. Et si tu n'es pas capable de la voir, tu vas arriver à la même conclusion que Moïse, tu vas commencer à râler. Et donc c'est la réponse que Dieu lui fait. Il dit, tu sais, Vaïdaber Elohim, c'est vrai que extérieurement c'est Elohim, c'est Vaïdaber, mais à l'intérieur, un IHM de celui qui est basqué. Bien fait. Alors, la question, est-ce que Moïse n'était pas capable de le voir? Mais ce n'est pas pour Moïse, c'est pour nous. C'est une leçon pour nous. La Torah est en train de parler comme un dialogue entre deux acteurs. Mais le bébé, c'est moi. Je dois comprendre les choses. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu me dit, et je conclue ce petit passage, ça c'est voir la bonté de Dieu même dans des situations qui vous paraissent impossibles. C'est extraordinaire cette leçon. Et regardez, on n'a rien fait, c'est pas avec des noms. On a joué avec les noms. C'est-à-dire, Dieu dit à Moïse, extérieurement, c'est dur, intérieurement, c'est bon. Et le Zohar nous dit, la fin, la dernière génération, elle sera comme ça. L'extérieur de cette génération va être vilaine. Les gens vont être vilains dans leurs actions, dans leurs pensées. Mais leur Nessama va être extraordinaire, dit le genre. Comment je peux voir mon peuple aujourd'hui? Si je le vois extérieurement parlant, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à râler. Regarde cette jeunesse. Regarde les coupes ratailles qu'ils ont. Regarde cette pourriture. Mais si je regarde de l'intérieur, ce sont des Nessamot de Olam HaTohu. Sont des Nessamot du Tohu, c'est-à-dire des Nessamot qui ne se suffisent plus d'une petite Torah du Rabbi Pachet. Ils veulent l'univers immense, et si je ne suis pas capable de la fournir, et bien ils cherchent ailleurs, ils cherchent tout. C'est-à-dire même leur violence est une violence qui vient parce qu'ils demandent quelque chose de beaucoup plus fort. Je continue. Clomal, et maintenant j'explique avec des mots ce que je viens de dire, avec les phrases. Si effectivement, extérieurement parlant, c'est comme ça, tu as raison, Moïse. Elohim, l'idatadine, tu vois bien que c'est difficile. L'esclavage a redoublé d'intensité. À l'intérieur, j'ai jamais été aussi amoureux de mon peuple. Extraordinaire. Et donc, tout ce qui est marqué, l'idatarachamim. Là, on est encore une fois dans un paradoxe. Un paradoxe. Mais c'est en réalité toute notre vie. Notre vie est un grand paradoxe. Nous sommes dans une situation superficielle qui nous montre certaines choses, et à l'intérieur, c'est autre chose qui se passe. C'est pour ça que les sages nous disent, accepte-toi à la fin des temps de nouvelles lumières. Sinon, tu ne verras que le monde superficiel. Il va falloir que tu t'habitues à voir les choses en profondeur. Alors, je vous ai dit en réalité de nouvelles lunettes, mais ce n'est pas réellement de nouvelles lunettes. Apprends-toi à fermer les yeux pour voir avec les yeux de dedans. Comme Rabbi Yosef dans la Gemara. Rabbi Yosef dans la Gemara, c'est le seul qui a dit que le Messie vienne, que je sois là, même si je ne le vois pas, parce qu'il est cadavre. Alors que tous les autres, ceux qui voyaient, disaient qu'ils viennent que je ne sois surtout pas là, chasse shalom. Tellement ça va être difficile. Dans la Gemara, Rabbi Yosef était aveugle et il dit, amenez-moi le Messie, même si je suis installé à l'ombre des crottes de son âme. Pour avoir de l'ombre aux crottes de l'âme, c'est qu'il est resté longtemps sur place. Et ça ne semble pas très bon. Ça veut dire que lorsque le Mashiach va venir, il va y avoir de l'ombre qui pue. Tellement le processus va être lent. Et ceux qui n'ont pas cette patience, eh bien, ils ne pourront pas vivre. Ils seront toujours en train de se manger de l'intérieur. Alors, quel est le sens de me dire que Rabbi Yosef était aveugle? Tout simplement, c'est comme s'il ne voyait plus avec les yeux de l'extérieur comme tout le monde. Donc, il voyait beaucoup mieux. Il voyait avec son cœur. Il voyait l'intériorité. Il voyait l'Idata Rachamim là-dedans. Je continue. Vaera el Abraham el Yitzhak ben Yaakov el Shaddai. Donc, je me suis dévoilé à Abraham Yitzhak Yaakov avec ce nouveau nom, El Shaddai. Aussi, Yuske Basse, l'O, Nodat Ilaï. Et ce deuxième nom, le tétragramme, je ne me suis pas dévoilé à eux. En hébreu, il y a une grande différence entre Hodati et Nodati. Il n'y a pas marqué l'O, Hodat Ilaï. Je l'aurais dit ce nom, il savait le tétragramme. Mais l'O, Nodati, c'est-à-dire je ne me suis pas. Non. Je n'ai pas connecté ce nom sur terre. Il le savait. Il était encore comme s'il flottait en l'air. Pourquoi? Je vous pose une question. Pourquoi ce nom n'a pas été utilisé pour Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi il est utilisé comme maintenant? Non. Il y a peine qu'il n'y avait pas encore le peuple d'Israël. Ce nom ne peut pas se dévoiler. Le tétragramme ne peut pas se dévoiler tant qu'il n'y a pas l'apparition de Ram Israël. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Ça veut dire qu'il y a ici une nouveauté, un chidouche. Quel est le chidouche? C'est que le peuple d'Israël va naître où? En Égypte. Donc c'est la première fois, d'une manière encore une fois paradoxale, où ce nom-là, le tétragramme, va apparaître d'Afka quand on est dans le ventre de cet animal. Parce que l'Égypte n'est pas une femme, c'est un animal. Donc le peuple d'Israël est né dans un ventre d'un animal. C'est terrible. C'est-à-dire on est né de la chose la plus lointaine de l'être humain. Donc la plus lointaine du divin. Et de là-bas, on va remonter pour être au summum près de Dieu. Amarti Elohim Hashem. Moi, je voulais que vous soyez comme moi. J'ai appelé beaucoup. Incroyable. C'est-à-dire nous même jusqu'à un degré ultime. Pourquoi faire tout ça? C'est simplement parce que la lumière la plus élevée, elle est tombée dans les degrés les plus bas. Et il va falloir rentrer dans cette poubelle pour aller récupérer ces étincelles. Au niveau psychologique, tant que tu n'es pas rentré au fond de ton problème, tu ne pourras pas guérir. Parce qu'au fond de ton problème se trouve ta solution. Donc qu'est-ce qu'on a cherché en Égypte? La solution à tous les exils. On l'a trouvé? Oui. On est sorti de là-bas avec des biens. Qu'est-ce que c'est que le bien? Quel est le bien avec lequel on est sorti? Qui est enfoui en Égypte? La Torah. La Torah était en Égypte. Les noms, tous ces noms-là. On est en train de parler de noms. Tout ça s'était emprisonné. Donc en sortant, on l'a libéré, tous ces noms. Donc qui a été libéré? Le Verbe. Les noms ont été libérés. Donc on va faire très rapidement la différence entre El Shaddai face à Yutke Baske. Exactement. Naflou Semot. Naflou Semot. Ve'el Semot Bnei Israël Habba'im Mitzrayim. C'est les Semot qui sont descendus. Donc qui est sorti en réalité? Les Semot. Sous la forme du peuple. Yidgalut Hashem la'avot haïta efob El Shaddai. Donc, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé avec le nom de El Shaddai. Donc, c'est un nom composé. Klomar b'shem ha'miyuchas l'kol ha'nissim ha'nistarim b'teva. Alors, je vous dévoile déjà un petit peu ce que ça veut dire. C'est à Tadik Maïa. Quand vous avez El Shaddai, c'est déjà masqué. C'est-à-dire, c'est un miracle, mais qui est habillé dans une nature. Obligatoirement. On va essayer de comprendre pourquoi. L'Agmara, dans Hadida Yudbet, nous dit, 12, Shaddai, qu'est-ce que c'est ce nom Shaddai? C'est Amarti la Olam Dai. C'est-à-dire, c'est Dai. Je dis au monde, stop. De qui on parle? D'Hachem. Akadosh Baruch Hu dit à son monde, stop. Donc, mise en limite. La mise en limite, c'est le nom El Shaddai. Shaddai veut dire des limites. Dai. Shemze, donc ce nom-là, Tachour, le Messira, Tachvoulot, Banesiot. C'est avec ce nom qu'on fixe des limites dans l'existence. D'ailleurs, on le dit aussi en hébreu. Dai. Sucha. Ça fait. Pourquoi dans la Mezouza nous avons Shaddai? Parce que la Mezouza, c'est l'endroit où on bouge le plus. Mezouza. Tout le monde bouge. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Mais si je sors de ma maison, je vais vers quoi? Vers un domaine qui est rempli de plein de choses. Dans ma maison, je suis protégé. Mais à chaque fois que je sors, pour revenir à ma maison, je peux ramener avec moi des influences néfastes, négatives. Qu'est-ce qu'elle fait la Mezouza? Elle dit à toutes ses forces, d'aille. C'est d'aille. Il n'y a que lui qui a le droit de rentrer. Lui fait partie de cette maison. Les forces négatives, elles restent dehors. Donc quand vous rentrez, vous poussez ou vous embrassez la Mezouza, hein, en réalité, vous êtes en train de vous protéger, vous faites quand même l'espanner un filtre qui laisse toutes les pourritures dehors et vous seul vous rentrez. C'est parce que c'est la même chose, parce que le mot d'aille, c'est yad. Pourquoi on a utilisé le stop une main? Parce que combien de phalanges nous avons? 14, donc yad, yud dalet. Nous avons la main qui veut dire en réalité les 14 phalanges, c'est-à-dire Yad. Et d'ailleurs, quand je suis ton ami, Yad, le Yad, ça fait Yadid. Yadidim. Donc, ce nom-là, il donne les mesures. C'est ma zemiyoukha, c'est choukha, c'est va, donc c'est les lois de la nature. Et la chenouka soube, il se donne les dînes à noter, il se gère, les collègues. Donc c'est en réalité une gère, un cadre à toutes les distances. C'est dit, ça vient de venir. C'est donc, à Semoukav, El Shaddai. C'est un nom composé, El Shaddai. Moré à la chesse d'Amechoune, Bessem El. Mais dans le El Shaddai, il y a aussi El, que pour l'instant on a mis de côté. Donc, je vous rajoute encore un nom. Qui était caché. Et qu'est-ce que c'est El? C'est une connotation de quoi? De bonté ou de rigueur? De bonté. Parce que nous avons un texte dans ces lignes, Chesed El Kolayom. Donc David Amelech nous révèle que le mot El, c'est une bonté. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vers toi. El. Amelech El. Je vais vers. Je vais vers vous. Je suis sans arrêt en train de venir vers vous. Mais en même temps, il y a Shaddai. Stop. Donc nous avons un nom qui est composé d'une bonté, à laquelle il va falloir mettre des limites. Voilà le nom El Shaddai. À mon fils, avec Porsche Boulot, Shaddai. Donc, si je ne mets pas les limites à El, Rajve Shalom, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça peut descendre dans des endroits qu'il ne faut pas. Donc, ça va devenir Elohim Acherim. Rajve Shalom, ça commence par El. C'est-à-dire, une bonté non mesurée est un dégât. Même quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, si vous ne savez pas donner les limites du bien que vous faites, vous allez faire n'importe quoi. El Shaddai, donc le mot El Shaddai, ou oh, après c'est de torcli, c'est de bois. Donc c'est une bonté dans un ustensile de mesure. Donc c'est l'apparition de d'Hachem dans un monde naturel qui est limité. C'est pour ça que ce nom est apparu aux individus. Abraham, Israël et Jacob. Même s'ils étaient en potentiel porteurs de la nation, pour l'instant ils étaient encore individus. Donc limité. Les Oumazot, face à cela, c'est Yudke Vaske, le nom Yudke Vaske, le tétragramme. Vous voyez que c'est le livre de Shemot. Vous comprenez pourquoi ce livre s'appelle Shemot? C'est un travail énorme à faire. Il faut étudier tout ça. Alors, le nom, le tétragramme que vous voyez sans arrêt partout, Yudke Vaske, ou Shema Etsem, c'est le nom de l'essence même. Aboket, Kol Masaché Achaim. Lui, il n'a aucune limite, c'est comme un joker. Il passe partout. C'est le roi. Il peut tout faire. Akova et Kaemeta Mouklete, c'est la vérité absolue. En Odi Levado. Il n'y a rien d'autre que lui, en réalité. Ofat Shema Etsem Beslavze. Donc maintenant, pourquoi ça apparaît ce nom-là, justement, juste la veille de la sortie d'Égypte? Comme on l'a dit tout à l'heure. C'est parce que le peuple d'Israël est apparu. Bien. Mais ce que j'ai dit, la différence entre Hodati et Nodati. On voyait le nom, mais on ne savait pas encore comment l'utiliser. Il était inutilisable parce qu'il n'y avait pas encore peuple. Donc, en réalité, ce nom-là est prévu pour le peuple. Pourquoi ? Parce que seul le peuple d'Israël, et non pas les individus, peuvent commencer à rentrer dans leur fonction. Et quelle est la fonction du peuple ? De révéler Hachem dans le monde. Moralité, quand on est des individus en exil, on peut donner des cours du matin au soir, ça ne sert à rien. C'est pas ça. On n'est pas entendu, on n'est pas audible. C'est que le peuple sur sa terre, qui lorsqu'il parle, et même sans parler, tout en étant, simplement, il est en train en réalité d'émettre le message divin.
Par exemple, pour là, on rentre
en pénétrie
sur une baracha.
Okay.
C'est un morceau de la Torah.
D'accord.
Donc on voit qu'un morceau de la Torah peut parler de lui-même sur quelque chose de très grand. De la même façon, un juge de Galut.
Okay.
Il parle d'une partie de son
peuple.
D'accord.
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 Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est comme quelqu'un de malade qui parle à distance. Il n'applique pas la chose, il ne peut pas la vivre. C'est-à-dire qu'il parle du sujet sans y être. Tu comprends ? C'est exactement la même chose. Ah, c'est autre chose. Si dans la sakavana il se relie et qu'il veut y être et qu'il enseigne à ses élèves qu'il faut arriver, c'est autre chose. Donc il y a 10 degrés. D'accord ? Il y a 2 degrés. Mais si tu vis là-bas et tu continues, et tu fais comme si de rien n'était, et que tu peux passer à côté d'une paracha comme ça, et tu vas trouver dans un petit recoin de la paracha, je ne sais pas, moi, il y a la fin. C'est sympathique, mais c'est pas ça, c'est pas ce que la Torah veut de nous. Mais non. Alors il y a 2 degrés. C'est comme la Hanoukia. Sur quelle matière tu l'as allumée ? De quoi est faite la Hanoukia ? Elle est quoi ?
D'argent.
D'argent ? Non, la tienne, c'était en quoi ? Alors, ben, Ezra, parce que l'année prochaine, tu achètes une chanoukia en argent. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure chanoukia. La lumière que vous allumez sur de l'argent, c'est qui souffle, c'est-à-dire une aspiration à Hachem. Mais madame ! Alors, il faut faire un effort. En plus de ça, je te donne un conseil. C'est un investissement à long terme, puisque Hanouka va rester. C'est ça qui va se faire, il me dit la Deecha. Non. Mais ça, tu peux investir. Et après, où il me dit la Deecha, à cette une belle. Hein? Pour le mariage. Hachem Aklali Mofia Yachad Imamala Aklali Kel Israël. Donc, le collectif Israël, eh bien, il fait apparaître ce nom dans le monde. Maintenant, je vais plus loin. Si je fais apparaître ce nom dans le monde qui existait, mais qui le fait, donc maintenant il descend sur terre, qu'est-ce que je fais ? J'ai sorti Dieu de son exil. Car l'exil de Dieu, c'est quand il est dans son ciel. Et quand il descend sur terre grâce à ce peuple d'Israël, ça veut dire que le peuple a fait sortir Dieu de son exil. Donc le premier est sauvé, entre guillemets, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez ? Et c'est pas moi, Yoel, qui le dit. C'est la Torah. Atem Edai va ani El. C'est seulement si vous êtes mes témoins que je suis El. Mais c'est ça qui révèle. Les vêtements révèlent. Okay ? Les vêtements, ça sert d'auto. C'est un jeu de mots, hein ? Non, c'est pas sa place en haut. La place d'Akadosh Baruch Hu, Rasa Akadosh Baruch Hu la'asot lo dira batachtonim. Si on laisse Dieu dans son ciel, Chag v'Shalom, c'est la pire des choses, c'est ce qu'a fait la chrétienté. On a découpé, lui il est là-bas et nous on s'occupe de politique ici. Non ! Je dois amener Akadosh Baruch Hu dans chaque siège de chaque travers chrétien. Faire descendre Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est ça le but de l'âme Israël. Et donc c'est le nom qui va faire en sorte que la Géoula va venir. Pourquoi ? Parce que ce nom-là, où est-ce qu'il apparaît ? Dans quel monde ? Maintenant, on rentre un petit peu dans la Kabbalah, on termine avec ça. Atzilut. C'est dans le monde de l'émanation, le monde le plus élevé que ce nom apparaît. Et le Ramchal nous donne une clé. Il n'y a pas de Géoula s'il n'y a pas de dévoilement de Olam Atzilut. C'est-à-dire, si tu veux sauver le monde, il faut que la plus haute lumière du plus haut monde se dévoile en bas. C'est comme ça la Géoula. Donc, à Géoula, c'est 26 ans, il va falloir y passer à la Bidulu, à Rachilou. Donc, si tu veux faire Géoula, fabriquer Géoula, tu dois dévoiler le monde de l'émanation, le monde le plus haut. Zéou, Soda, Sem, Yutseva, Pekanoda. Donc, celui qui a étudié un petit peu la Kabbalah sait que quand on étudie la Kabbalah, qu'est-ce qu'on étudie en fait? Le monde de Rachilou. Et donc, si on dit les choses, c'est comme si on faisait descendre le monde de Hatsilut dans le monde de Hatsia, dans le monde de l'action. Des Zmanagalut, Semzegalut. Et donc, en exil, ce nom-là est enfermé. Ou Bemakom, Hapani, et au lieu de dévoiler la face d'Hatsem, Akinouni, Sholti, qui va dominer le monde, les surnoms, et pas le nom. Pourquoi c'est très grave de donner un surnom à quelqu'un? Même Dieu, on peut lui donner des surnoms. Ça veut dire que tu le limites et tu ne le dévoiles pas. C'est pire que ça. Celui qui donne un surnom à son ami n'a pas le droit au lamaba. Comme ça dit la Gemara. Quand la met gagné, il fait une son gnaï la chavero, et on le chalek le lamaba. Et non, on le sina. C'est autre chose. Si c'est un surnom affectif, affectueux, et que la personne est d'accord, mais quand je fais un quotidien à quelqu'un, le gros, le vilain, la vilaine. Hein? Ah, mais c'est mon amour. Hein? Oui. Donc, je colle à Péoulot, n'a à saut de Réclébouchine. Donc, tant que les choses sont habillées, elles sont encore exilées. Dans la vie où là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déshabiller. Pourquoi? Comme pour avoir un rapport intime. On n'a pas le droit de garder les vêtements. Akadosh Baruch Hu veut avoir un rapport intime avec l'Assemblée d'Israël. Et donc il y a un moment où on enlève le pshat, mitpasset, et on va être dans un rapport intime entre lui et nous. C'est très important. On va le dévoiler la Géoula, donc c'est ça la Géoula. Mitgalé Sem Yutsevav, que ça veut dire qu'il va enlever ses vêtements, il va sortir de son étui. Be'akinoim Sofim. Et tous les surnoms vont se mettre au chômage. Jusqu'au moment où vous saurez que c'est moi le tétragramme Yud-Ke-Bav-Ke. C'est Yud-Ke-Bav-Ke, mais ta ken, kolaf-gamim. Donc ce nom, il a la capacité de réparer tous les mots, M-A-Y-T. De Maslim et kolaf-estronos, il remplit tous les manques. C'est-à-dire que si on savait mettre le Yud-Ke-Bav-Ke dans notre corps, on n'aurait aucune maladie. Va mettre nous dans la réalité. Zé-Soda-Asilut. C'est pour ça que c'est très important d'étudier cette Torah, parce qu'elle dévoile Yud-Ke-Vav-Ke, parce qu'elle s'occupe de Torah Hasod, de la Torah de l'ensemble. Sod ne veut pas dire secret seulement, veut dire l'ensemble. C'est la Torah de l'ensemble de la nation. Amechuna Besem Torah Hasilut, qu'on appelle justement la Torah de Hasilut. Et Hasilut veut dire seul, tu es à l'ombre du Aleph. Donc, Eslo, tu es celui à Silou. En étudiant cette Torah, nous sommes chez lui. Non, Yud-Ke-Vav-Ke. La Torah de Yud-Ke-Vav-Ke qu'on appelle Torah à Silou. Donc, étudier cette Torah, et donc étudier les sénotes, et les dévoiler, les décoder, c'est très important. Pas seulement pour avoir des informations, qu'on appelle ça, comme ça ou comme ça, pour faire activer les choses dans notre vie. Connectez. C'est-à-dire, c'est le nom de Yud-Ke-Vav-Ke, merci beaucoup, il ne savait pas. C'est Yud-Ke-Vav-Ke au futur. C'est-à-dire un présent continu. Parce que Eriye, c'est qui? C'est Ani. Eriye, Mazé, Eriye en hébreu. Je sais, c'est la même chose. C'est la même chose, mais je serai toujours là. C'est-à-dire, je suis en train de te consoler. Là où tu iras, je serai avec toi. Donc, Eye, Aser, Eye, c'est 21 Eye multiplié par 21, 441 Eye. La vérité absolue qui va nous accompagner tout au long de nos exils. Et là, on est en train de terminer. Il faut juste maintenant dévoiler ce nom de Yud-Ke-Vav-Ke. Bayom Aou, Yé Asem Echad, Ismo Echad. Toda Rabba.